Merci d'écouter RFI. 13h en temps universel, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Contner.
Dernière partie de RFI Midi. Dans quelques minutes, après le journal, entretien avec le chef de mission de l'OIM en Haïti pour parler des déplacés, toujours plus nombreux à cause de la violence des gangs. On évoquera aussi l'avenir des États-Unis. Le modèle américain tel qu'on le connaît pourrait bien succomber sous les coups de boutoir de Donald Trump et de son meilleur allié et soutien Elon Musk. C'est en tout cas la thèse de notre invité. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure des questions qui entourent l'évolution institutionnelle des départements d'Outre-mer.
Oui, et de la tribune envoyée par le président de la collectivité territoriale de la Guyane, Gabriel Serville, qui semble douter assez fortement de la motivation de l'État.
À tout à l'heure. Mais d'abord donc le journal. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Anne Contner.
En plein hiver, les Ukrainiens subissent de nouvelles coupures de courant.
La Russie continue de frapper des infrastructures énergétiques en Ukraine. L'armée russe a confirmé une nouvelle salve de missiles survenue ce matin. Cette attaque fragilise un peu plus le réseau énergétique déjà très affaibli. Et cette fois, Anastasia Becchio, ce sont surtout les installations de l'Ouest qui étaient visées.
Oui, sur la quarantaine de missiles tirés, une trentaine a été abattue selon les autorités ukrainiennes. Plus de 70 drones ont par ailleurs été lancés, notamment dans la région de Lviv. Le gouverneur de cette région affirme que deux installations énergétiques ont été endommagées. Des attaques également dans la région d'Ivano-Frankivsk, toujours à l'ouest. C'est dans cette partie occidentale du pays que se trouvent les plus grandes installations souterraines de stockage de gaz qui sont essentielles pour assurer le chauffage. Également visées les villes de Kiev et Kharkiv. L'opérateur électrique Ukrenergo a annoncé des coupures d'urgence pendant plusieurs heures dans cette région de l'est et du centre du pays. Ces pilonnages se produisent au lendemain d'une importante attaque ukrainienne contre des installations militaires et industrielles, des raffineries de pétrole, des dépôts de carburant et des usines chimiques en Russie, des usines qui fabriqueraient, selon Kiev, des composants pour le secteur militaire russe. À moins d'une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump, les deux camps maintiennent la pression. Dans le Donbass, les troupes russes tentent de conquérir les quelques localités de la région encore aux mains des Ukrainiens, et en particulier la ville de Pokrovsk. Hier, face à l'avancée des Russes, la décision a été prise de fermer la grande mine de coke de la ville. C'était la dernière de ce type encore sous contrôle ukrainien.
Anastasia Becchio. Et la Russie a annoncé il y a quelques minutes un nouvel échange de prisonniers de guerre. 25 soldats ukrainiens contre 25 soldats russes. Aucune confirmation ukrainienne pour l'instant. Le président ukrainien, lui, se trouve en Pologne. L'un de ses principaux alliés, Volodymyr Zelensky, a rencontré le premier ministre polonais Donald Tusk. Ce dernier promet, je cite, de surmonter l'impasse dans le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le soutien de Varsovie est très important pour Kiev, surtout à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, dont la position sur la guerre, sur sa résolution, reste assez floue.
La deuxième ville des États-Unis, Los Angeles, est toujours rongée par les flammes.
Les vents violents les attisent. Les météorologues craignent même des tornades de feu dans la ville. Ces incendies géants ont fait au moins 25 morts. Selon le dernier bilan, près de 90 000 déplacés, des milliers de maisons réduites en cendres. Ces méga-feux, comme on les appelle, se multiplient tout autour de la planète. Plus nombreux, plus intenses aussi, à cause du réchauffement climatique. Simon Rosé, si localement ils détruisent tout ce qu'il y a autour, comme à Los Angeles, donc les méga-feux ont aussi des conséquences mondiales.
Et les scientifiques ont malheureusement suffisamment d'exemples pour affiner leurs recherches. Désormais, la fréquence de tels événements a doublé en à peine 20 ans. Parmi eux, l'été noir australien de 2019-2020 fait figure de triste référence. Plus de 18 millions d'hectares ravagés, près de 500 morts et 3 milliards d'animaux brûlés. Mais le désastre n'a pas été que local. La NASA a ainsi pu suivre le devenir des panaches de fumée. Ils ont fait le tour de la Terre. Les premières conséquences, elles sont sanitaires, c'est bien documenté. Ces fumées sont chargées de particules fines, de suie. Leur concentration est logiquement plus élevée à proximité des foyers, mais leurs effets délétères peuvent se faire sentir à plusieurs centaines de kilomètres. Ces fumées vont loin, elles vont haut également, jusqu'à 35 km d'altitude. Elles interagissent avec l'atmosphère, elles peuvent détruire localement l'ozone. Et enfin, les méga-feux ont un effet sur le climat mondial par les énormes quantités de dioxyde de carbone qu'ils dégagent, en Australie toujours. Ils en avaient émis autant que le Japon en un an. C'est un cercle cercle vicieux. Les incendies contribuent ainsi au réchauffement climatique qui les favorise en retour.
Simon Rosé du service climat-environnement de RFI.
À Gaza, l'espoir d'un cessez-le-feu imminent.
Et les discussions s'accélèrent. Le médiateur qatarien estime même qu'elles en sont au stade final. Cette nouvelle trêve à Gaza, la deuxième depuis le début de la guerre, s'accompagnerait de libération d'otages du Hamas et de libération de prisonniers palestiniens. Mais Ahmed Koussaï, docteur en sciences politiques à l'université de Ramallah, fait preuve d'un optimisme prudent. Selon lui, cet accord pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.
Notre crainte, c'est que Netanyahou, dès qu'il aura obtenu la libération des otages, reprenne ses bombardements à Gaza, un peu comme il le fait avec le Hezbollah au Liban. Et cela signifie qu'il fera tout ce qu'il peut pour rester le plus longtemps possible à Gaza. Et l'autre point le plus important à l'issue de cet accord, c'est l'avenir de la Cisjordanie. Nous redoutons que la Cisjordanie paye le prix fort. En tant que Palestiniens, nous entendons parler de promesses faites par Trump à Netanyahou pour lui permettre d'annexer la Cisjordanie et d'y construire de nouvelles colonies.
Supporting the annexation, supporting the building a new settlement.
Ahmed Koussaï, docteur en sciences politiques à l'université de Ramallah avec Sami Bourkhlifa.
Et sur ce dernier point sur l'avenir de la Cisjordanie, vous pouvez réécouter l'entretien que nous a accordé tout à l'heure le président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient. Il est disponible sur notre application RFI Pure Radio. 14h06 en France, Marion. Le gouvernement reste très fragile après le discours de politique générale du Premier ministre.
François Bayrou, nommé il y a un mois, a tenté de faire un pas vers la gauche sur le dossier des retraites. Il a proposé hier aux partenaires sociaux de retravailler le texte de la réforme contestée. La gauche demande plutôt sa suspension et estime qu'il ne va pas assez loin. Donc, les députés socialistes se réunissent aujourd'hui, tout à l'heure, pour décider de voter ou non la censure du gouvernement. Motion de censure soumise à un vote demain.
En attendant, le gouvernement français est en train de faire adopter son premier texte. Il concerne la reconstruction de Mayotte.
Un peu plus d'un mois après le passage du cyclone Chido qui a dévasté ce département français d'outre-mer, le projet de loi d'urgence a été validé dans la nuit en commission à l'Assemblée nationale. Il sera ensuite examiné par les députés, puis les sénateurs. Un texte déjà très critiqué par les deux députés locaux qui trouvent, Marie Cazadebé, qu'il manque d'ambition.
Le projet de loi comprend une vingtaine d'articles consacrés à la reconstruction des écoles, des infrastructures et des logements. L'un d'eux permet pendant 2 ans de passer outre les nombreuses règles du code de l'urbanisme pour faire sortir de terre au plus vite des hébergements d'urgence. Pour ce qui est des écoles les plus endommagées, l'État se substituera aux collectivités locales qui ont normalement la charge des établissements scolaires. Tout un pan de ce texte est également consacré au foncier, un sujet complexe à Mayotte où les terrains sont rares et les propriétaires difficiles à identifier. Cette loi d'urgence pourrait donc permettre l'usage d'un terrain avant même de savoir à qui il appartient et d'indemniser son propriétaire après coup. Pour les deux députés de Mayotte, ce projet de loi passe à côté du sujet essentiel, celui de l'immigration, dans un archipel qui compterait près de 100 000 étrangers pour une population officielle de 320 000 habitants. Le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls, promet pour le mois de mars des mesures à plus long terme. Et avant cela, une proposition de loi examinée le 6 février, elle prévoit de durcir encore l'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers.
Marie Cazadebé, la France, première destination touristique mondiale avec ses 98 millions de visiteurs par an, et bien elle est rattrapée peu à peu par l'Espagne qui a accueilli 94 millions de visiteurs étrangers l'an dernier, un record. L'Espagne, destination donc très prisée, tout comme le Japon qui a aussi battu un record de fréquentation, 37 millions de touristes l'an dernier dans la démesurée Tokyo, l'emblématique Mont Fuji, les traditionnels temples de shintoïste. Les visiteurs étrangers ont certes été attirés par tout cela, mais surtout par l'affaiblissement du yen, la monnaie nationale. RFI Midi, ça continue avec le journal d'Haïti et des Amériques. Avec vous, Anne Cantner.
Merci, Marion Cazanov.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous vous en parlions hier sur cette antenne. Le nombre de personnes qui fuient les violences atteint des niveaux de plus en plus alarmants en Haïti. Plus d'un million ont dû quitter leur maison en 2024. C'est 3 fois plus que l'année précédente. À cause des gangs, des attaques plus fréquentes et plus brutales. Mais se déplacer ne signifie même pas retrouver la sécurité et encore moins des conditions de vie meilleures. Écoutez Grégoire Goodstein, chef de mission en Haïti de l'Organisation internationale pour les migrations. Il explique à Christophe Paget où fuient ces Haïtiens et où ils s'installent.
Ils partent des quartiers qui sont un petit peu en périphérie de la capitale. Soit ils essayent de se recentrer dans les zones sécurisées de la capitale, une zone qui est maintenant assez restreinte. Je crois qu'il n'y a plus que 15% de la capitale qui est considérée comme zone sécurisée. Et puis, il y en a d'autres qui partent en province, notamment dans le sud et un petit peu vers le nord. Mais le nord est de plus en plus sujet aux attaques des gangs parce que les gangs se sont déplacés un petit peu vers les provinces du nord.
Ceux qui restent dans la capitale, mais qui donc, vous l'avez dit, se déplacent, ils vont dans des camps dont le nombre a beaucoup augmenté en un an ?
Voilà, il y a eu une augmentation du nombre de camps, on appelle ça des sites en Haïti. Entre juin et décembre, on est passé de 117 sites à 142 sites. La plupart de ces sites sont à Port-au-Prince même. On est à 108 sites à Port-au-Prince et 34 en province. Et donc les gens partent là où ils pensent soit avoir des liens avec les communautés, soit avec la famille. Le problème avec le déplacement en province, c'est que comme vous le savez, il y a les gangs qui encerclent la capitale et donc il faut traverser les checkpoints qui sont établis par les gangs et donc c'est des risques. Dans la mesure du possible, les gens essayent de rester sur Port-au-Prince, mais le problème, c'est qu'il y a maintenant, avec la zone sécurisée qui est de plus en plus amoindrie, il y a de moins en moins d'opportunités de logement et du coup, il n'y a plus vraiment d'options pour les personnes qui sont déplacées.
Et dans les camps de Port-au-Prince, où vont une partie de ces personnes, comment sont les conditions de vie ? Est-ce qu'en un an, elles se sont dégradées ?
Oui, la situation s'est dégradée. Il y a un certain nombre de ces camps qui sont hors radius de sécurité. Donc, difficile d'accès, difficile en termes d'assistance, que ce soit pour la nourriture, pour l'eau, la sanitation, les choses de base dont ont besoin les personnes déplacées. Et du coup, oui, la situation se dégrade et la possibilité de les atteindre est réduite.
Les déplacés, lorsqu'ils quittent la capitale, Port-au-Prince, ils sont accueillis par qui ?
La majorité des personnes qui partent en province sont dans des familles d'accueil. Soit des familles que ces personnes connaissent ou des familles qui, par solidarité, les accueillent et qui partagent donc leur maison.
Et ces familles sont déjà dans des situations difficiles.
Surtout que la situation de crise dure depuis 2 ans et plus. Donc les familles qui accueillent sont aussi en difficulté. Donc c'est pas seulement les personnes déplacées internes qui ont besoin d'assistance, mais c'est aussi celles qui les accueillent. Donc quand on parle de 1 million de personnes qui ont été déplacées à cause des violences, il faut aussi rajouter les communautés d'accueil qui ont aussi besoin d'assistance. Et il faut savoir que tous les services publics ont du mal à fonctionner et c'est pour ça qu'il y a un rôle essentiel pour les organisations internationales comme l'OIM et aussi de nos partenaires parce qu'on vient en complément des services d'État qui sont très amoindris par cette crise. Il faut savoir qu'en 2021, on a été financé, l'ensemble des Nations Unies, à hauteur de 42-43% des financements humanitaires qui ont été demandés. Ce n'est pas suffisant et c'était pour une population déplacée en crise qui était moindre aussi. Et on ne sait pas ce que 2025 va nous apporter.
Grégoire Gutstein, chef de mission en Haïti de l'Organisation internationale pour les migrations. Il répondait à Christophe Paget. Et pour tenter de rétablir l'ordre en Haïti, Vincent Souriot, les autorités viennent d'installer un nouveau secrétaire d'État chargé de la sécurité publique.
Mario Andresol qui reprend du service et sa nomination semble faire l'unanimité. C'est un homme expérimenté, formé en Haïti, aux États-Unis et en France, qui a fait carrière dans l'armée avant d'entrer dans la police et de grimper tous les échelons de l'institution policière, directeur de la PNH, la police nationale, entre 2005 et 2012.
Et crédité à l'époque de résultats notables dans la lutte contre les groupes armés.
Oui, d'après le Floridien, l'un des journaux de la diaspora haïtienne basée à Miami, c'est l'un des rares haut fonctionnaire doté d'une connaissance approfondie des mécanismes du banditisme et son passage à la tête de la PNH avait permis d'affaiblir un certain nombre de réseaux criminels. Il est de retour, mais l'homme providentiel n'existe pas et c'est un Mario Andresol très ému qui l'a dit lui-même lors de son premier discours hier. S'il revient, c'est avant tout pour que les Haïtiens retrouvent une vie normale.
Le temps n'est donc plus à la rhétorique ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faudra le faire pour Haïti, pour nos enfants.
Une nomination encourageante. Maintenant, il va falloir du concret, Vincent.
Oui, le nouvelliste fait la liste de tout ce qui lui manque. Il faut d'urgence, écrit France Duval, un budget, des moyens, du personnel qualifié pour revitaliser la secrétairerie d'État à la sécurité publique. Alors qu'elle est coincée entre le ministère de la Justice, celui de l'Intérieur, la primature, le Conseil supérieur de la police nationale, le nouveau Conseil national de sécurité et la présidence. Autre point, Mario Andressol devra soigner ses relations avec la communauté internationale. Il est pays amis qui financent, qui surveillent et qui produisent des rapports sur la sécurité en Haïti. Parmi tous ces mastodontes, conclut le nouvelliste, Andressol devra se faire une place et il devra faire la différence.
Voilà ce qui fait la une de la presse en Haïti. Aux États-Unis, on s'intéresse à un discours d'adieu. Joe Biden prononce aujourd'hui sa dernière allocution télévisée en tant que chef d'État.
Et oui, le rideau tombe après 4 ans de présidence. Il y aura d'autres discours cette semaine devant les représentants des forces armées ainsi que devant les maires de certaines communes américaines, signale le New York Times, mais celui de ce soir, ce discours en prime time, résonne comme un adieu aux Américains. NBC nous en livre quelques éléments en avant-première. Le président sortant devrait insister sur son bilan économique, son bilan environnemental, croissance de l'emploi, investissement dans les énergies renouvelables, lutte contre le changement climatique et aussi saluer la gestion de la pandémie de Covid-19. Si vous êtes en France et que cela vous intéresse, il faudra attendre le milieu de la nuit. Prise de parole prévue du bureau ovale à 20h heure de Paris, heure de Washington, donc 2h du matin, on est bien au milieu de la nuit, 2h du matin, heure de Paris.
Joe Biden qui profite de ces derniers jours pour avancer sur un certain nombre de dossiers, pour prendre des décisions qu'on sait parfois très éloignées de la ligne de son successeur Donald Trump. Le président sortant a décidé par exemple hier de retirer Cuba de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Inacceptable selon le sénateur du Texas, le républicain Ted Cruz, mais pour l'administration américaine, il s'agit d'un geste de bonne volonté, suivi immédiatement par l'annonce à Cuba de la libération de 553 prisonniers.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les États-Unis, toujours, est la question très sensible des réseaux sociaux. La rumeur a beau avoir été rapidement démentie par la Chine, qui parle de pure fiction. Elle agite le milieu de la tech depuis le début de la semaine et inquiète dans plusieurs pays. Elon Musk pourrait racheter les activités américaines de TikTok si jamais le réseau chinois venait à être banni. Elon Musk, sulfureux propriétaire de X, qu'il utilise sans scrupule pour imposer ses idées libertariennes et pour faire avancer son projet politique partagé avec Donald Trump, qu'il a déjà chargé d'une mission en ce sens. Couper au maximum dans les dépenses fédérales pour arriver à une présence de l'État la plus petite possible. Pour en parler, Michael Ponge reçoit le chercheur Romuald Sciorra, auteur du livre « L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence ».
Bonjour Romuald Sciorra.
Bonjour.
Dans cet essai, vous dressez le tableau très sombre d'une Amérique vouée, selon vous, à disparaître dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Résultat, entre autres, d'un État fédéral faible face à des États qui n'ont eu de cesse de gagner en puissance. Partons de ce constat-là. Diriez-vous qu'Elon Musk, dans le rôle qui lui sera dévolu dans cette future administration Trump, pourrait être le fossoyeur des États-Unis?
Oui, mais ironiquement, Elon Musk est porteur d'une mission qui est de réformer, restructurer l'État fédéral qui effectivement est entré en déliquescence depuis quelques décennies et qui est la colonne vertébrale des États-Unis. Le constat de leur part est juste quant à la déliquescence de cet État fédéral. Les remèdes qu'ils proposent, par contre, ne feront selon moi qu'accélérer le processus de dislocation de l'Union, car un pouvoir plus autoritaire à Washington, un pouvoir semi-autoritaire à la Viktor Orban, ne fédérera pas la majorité des États-Unis autour de leur gouvernement. Il suscitera plutôt un rejet d'une partie importante de la population.
Elon Musk, que l'on classe dans la catégorie des libertariens, est-ce que ceci, cette idéologie-là, elle explique l'interventionnisme d'Elon Musk que l'on a vu s'illustrer ces dernières semaines, notamment auprès de pays européens, l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni?
Oui, alors les interventions d'Elon Musk aujourd'hui en Europe font plutôt partie d'une stratégie que Musk et Donald Trump, avec Suzy Wiles, qui est la nouvelle secrétaire générale de la Maison-Blanche, tente de mettre en place au niveau national aux États-Unis, mais aussi au niveau occidental, c'est-à-dire une contre-révolution culturelle, une guerre anti-woke contre toutes ces valeurs progressistes qu'ils jugent décadentes, Donc ces interférences d'Elon Musk aujourd'hui dans la politique européenne, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, s'inscrivent, un, dans une stratégie de politique internationale qui a pour objectif de déstabiliser le système multilatéral, mais aussi, il faut bien le dire, l'Union européenne, et dans le même temps, dans un projet de contre-révolution culturelle à l'échelle occidentale.
Sur le plan intérieur, la presse américaine y voit une façon, cet interventionnisme à l'étranger, de tester son influence politique à Washington. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Oui et non. Tout cela fait partie d'une stratégie très précise. L'objectif des propos tenus quant au Groenland, au Panama ou au Canada ont, certes, oui, pour objectif de montrer à la population américaine qu'il y a un nouveau shérif en ville, également de montrer à l'établissement washingtonien qui est le patron, de montrer aux puissances rivales comme la Russie et la Chine, regardez ce que je suis prêt à faire à mes alliés, donc imaginez ce que je pourrais vous faire si vous allez contrecarrer mes plans. Mais au-delà de cela, il y a une volonté de démanteler l'ordre international tel que nous le connaissons, de mettre à bas ce qu'il reste du système multilatéral qui est déjà moribond. N'y voyons pas que des paroles en l'air, même si Trump n'a aucune intention effectivement d'annexer par la force le Groenland. Faisons attention à ce qu'il dit et prenons-le au sérieux.
Elon Musk, qui ne se fait pas que des amis dans la sphère MAGA, on a vu là ces derniers jours, Steve Bannon, l'ancien stratège en chef de Donald Trump lors de son premier mandat, critiqué ouvertement avec des mots très durs, l'invitant par exemple à retourner dans son pays, l'Afrique du Sud, Elon Musk. Ce genre de commentaires, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils traduisent une forme de schisme au sein de cette sphère MAGA ? Une inquiétude de la part des anciens alliés de Trump face au poids et à l'importance que prend Elon Musk ? Comment vous analysez cela ?
Il ne faut pas donner trop d'importance à cela. Il y a aussi beaucoup de jalousie. Steve Bannon est un ancien conseiller de Donald Trump qui a été un petit peu mis de côté. C'est une personnalité très peu connue des États-Unis. On lui donne en France, en Europe, plus d'importance qu'il n'en a. Il n'y a pas de schisme entre les Trump premier mandat et les Trumpistes d'aujourd'hui. Non. Ce qu'il se passe, c'est que Elon Musk a pris une place considérable dans le paysage politique américain. Il est aujourd'hui très proche de Trump. J'ai parlé dans un article de romance adolescente. C'est un petit peu ridicule, ils passent leur temps ensemble, c'est vraiment embrassade, etc., etc. Jusqu'où cette relation tiendra-t-elle ? On parle de deux égos surdimensionnés, il y a donc des risques d'étincelles. Mais à la différence justement de sa relation avec Steve Bannon, dont Steve Bannon Trump avait pu se séparer relativement facilement, les choses seront différentes avec Elon Musk. Elon Musk a besoin de Donald Trump, Elon Musk a une mission à remplir. Il est l'homme qui veut œuvrer pour le transhumanisme, il est l'homme qui veut œuvrer pour la conquête spatiale, pour sauver l'humanité. Bref, c'est un personnage habité. Il a besoin du pouvoir que lui donne Trump. Elon Musk, c'est le pouvoir spirituel, entre guillemets. Aujourd'hui, Trump lui offre le pouvoir temporel. Donc, je pense que Musk mettra beaucoup d'eau dans son vin, comme il vient d'en mettre dans l'histoire des visas, d'ailleurs, car il a besoin du pouvoir que lui donne Trump. Trump, dans le même temps, est en quelque sorte otage. Lui aussi, ils sont otages l'un de l'autre, otages de Musk. Je m'explique. Il est très facile de se débarrasser d'un Rex Tillerson, le premier secrétaire d'État qu'il avait eu en 2017. Facile de se débarrasser d'un Steve Bannon. Mais essayez de vous débarrasser de l'homme le plus riche du monde, qui est à la tête du réseau social X. Quelle bombe ! Non pas à retardement, mais à déclenchement immédiat. Il n'a donc aucun intérêt, aucune envie de se faire de Musk un ennemi. Donc même s'il y a des étincelles entre ces deux personnalités, je pense que cette alliance devrait perdurer du moins jusqu'au 4 juillet 2026, date à laquelle Elon Musk devra avoir terminé de restructurer et de sauver l'État fédéral. C'est le jour où nous fêterons le 250e anniversaire des États-Unis.
Merci Romuald Sciorra.
Romuald Sciorra, auteur du livre « L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence ». Il répondait à Michael Ponge. Et on vous retrouve Vincent Souriau maintenant pour la dernière partie de votre revue de presse pour parler Du futur du tennis ?
Ou du tennis du futur, on verra. Mais il a un nom et pourquoi on en parle ici ? Parce qu'il est brésilien, il s'appelle João Fonseca, 18 ans, météorite de la discipline, classé 112e mondial. Alors ça n'a l'air de rien, mais il a commencé l'année 2024 au-delà de la 700e place. Champion du monde junior il y a 2 ans, qui vient de confirmer à l'Open d'Australie qui se déroule en ce moment qu'il n'avait peur de personne. Il a laminé au premier tour le russe Andrei Rublev, 9e mondial. Et qui sont ses deux premiers fans ? Deux monstres du tennis, Novak Djokovic, toujours modeste, hein, qui dit reconnaître en Fonseca un peu de l'audace de sa propre jeunesse, et l'Espagnol Carlos Alcaraz, 3e mondial. Nous allons bientôt inscrire le nom de Fonseca sur la liste des tout meilleurs joueurs mondiaux. Voilà ce que dit Alcaraz pour Fonseca, 2e tour de l'Open d'Australie à suivre demain face à l'Italien Lorenzo Sonego.
Merci Vincent Sourio.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand pour parler de la collectivité territoriale de Guyane, son président s'interroge sur la volonté de l'État en matière d'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer.
Dans une tribune libre, Gabriel Serville semble douter assez fortement de la motivation de l'État, que ce soit d'ailleurs au niveau du président de la République ou au niveau du gouvernement. Tribune lue pour nous par Nickerson Perdius.
Gabriel Serville propose de jeter un regard sur les 2 alinéas du préambule de la Constitution de 1958. Pour lui, il y a, je cite, « une contradiction flagrante dans le sens où le premier alinéa évoque le peuple français, tandis que le second évoque les peuples des territoires d'outre-mer. » Fin de citation. Pour le président de la collectivité majeure de Guyane, la rédaction laisse sous-entendre que les citoyens ultramarins seraient des citoyens de seconde zone. Une ambiguïté qui ne serait pas sans conséquences dans la manière dont nos territoires seraient gérés. Paris entretiendrait des relations à forte dose paternaliste, souvent teintées de relents d'un colonialisme que l'on croyait aboli, a-t-il déclaré. Pour Gabriel Serville, il est urgent de faire évoluer à la fois le préambule et le corps de la Constitution. Il fait référence au projet d'évolution institutionnelle de la Guyane dans la conclusion de sa tribune et s'interroge quant à la participation à, je cite, « un énième CIOM, comité interministériel des Outre-mer, dont on sait que les conclusions ne seront jamais à la hauteur des espoirs portés par les élus et la population ». Fin de citation.
On passe à un tout autre sujet, l'avenir de la PDG du groupe Air Caraïbes French Bee, avenir qui serait en train de s'assombrir, selon en tout cas le magazine Challenge. Franck Aristide de la Première Guadeloupe.
À 80 ans, le fondateur du groupe, Jean-Paul Dubreuil, aurait tapé du poing sur la table. Il ne serait pas d'accord avec sa PDG sur la façon dont elle gère les compagnies qu'il a fondées. Parmi ses griefs, notamment le déclassement d'Air Caraïbes en matière de ponctualité et d'efficacité du service client. 56 places de perdues en un an. Mais selon nos indiscrétions, la stratégie économique de sa PDG pourrait également être dans son collimateur. Trop de dépenses, pas assez de recettes. Enfin, selon le magazine Challenge, des différends avec la fille Dubreuil, jusque-là en charge de la communication, du service à bord et des sujets commerciaux, pourraient aussi avoir scellé le sort de Christine Oumière-Widner, même si pour le moment, le groupe explique que la décision de l'écarter n'est pas encore actée. Pour mémoire, Christine Oumière-Widner avait été nommée à la tête des 2 compagnies en juillet 2023, en remplacement de Marc Rocher, devenu administrateur après 20 ans de bons et loyaux services. Elle venait d'être débarquée de la compagnie portugaise TAP qu'elle dirigeait.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Désolé, petit problème de notre côté et un micro qui n'était pas encore ouvert. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir été avec nous sur notre antenne. On va se quitter en musique avec Sama Racine, jeune rappeuse et chanteuse originaire du Tennessee aux États-Unis, et ce titre Chrome. Big wheels, me, big, baby, big wheels, me, big.
pimping. I can't tell you how I'm feeling right now, but the chrome bar dripped down from my neck to the ground home. I'm outside with my city right now, though. I'm face down in the trenches right now. I'm finna buy another round for what's bound come. I've been working too hard, I deserve fun. Flexing with them in the night, I deserve sun. Give me the fire, give me the finna burn some. I won't show them that my spirit had that. No look, got the worms in my head. Space with finna turn to my bed. Still ride with the chrome on the wings. Be with me, be, 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 baby. Be with me, be. Be with me, be, 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 baby. Be with me, be, be, be. Come on, let's go. Give me that fire, give me that, yeah, yeah. Give me that fire.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, 11h30, temps universel. Et dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix.